Bonjour frères et sœurs, je vous invite à faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 6. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Amen. Seigneur, je te prie de sanctifier les paroles que je vais donner ce soir dans le cœur de chacun et que aussi bien les personnes qui l'entendent que moi-même, nous puissions être remplis de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens que le don des langues est une chose importante, mais ce n'est pas en parlant en langue qu'on enseigne les gens. Et il dit, si je veux vous être utile, il faut que je vous apporte une parole de révélation, ou de connaissance, ou de prophétie, ou d'enseignement. Voilà. Il y a donc tout cela. Et aujourd'hui, je voudrais... Ah, vous entendez mon chien qui aboie, ça veut dire qu'il y a des visites qui arrivent. Donc, aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose, non pas par prophétie, parce que ça, je l'ai déjà reçu du Seigneur, mais par connaissance, à cause de la révélation que Dieu m'a donnée, mais je vais vous en parler avec mon cœur, non pas par doctrine, non pas par doctrine. En fait, c'est pas les doctrines qui vont sauver les gens, c'est pas les doctrines qui vont... En fait, les doctrines, très souvent, ça sert aux chrétiens et aux autres, ça sert de support pour se chicaner. Et je veux pas qu'on se chicane, je veux qu'on soit dans la paix, mais je veux quand même, et malheur à moi, comme disait l'apôtre Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Donc je dois dire ce que j'ai reçu du Seigneur, mais je voudrais vous le dire avec mon cœur. Il faut que la vérité soit dite. Nous croyons que en Adam, tous sont morts, que la mort, par la chute d'Adam et Ève, s'est étendue sur tout le genre humain. Mais pas seulement. La mort s'est aussi étendue sur les bêtes, sur les poissons, sur les oiseaux, les végétaux, enfin bref, sur tout ce que Dieu a créé. Et c'est une loi irrévocable. Jésus lui-même a goûté à la mort. Et Élie, qui n'a pas goûté à la mort, mais qui a été enlevé, doit revenir sur cette terre pendant la période de la grande tribulation avec un autre témoin, et ils mourront tous les deux. Apocalypse 11, 7. Tout le monde doit mourir, tout doit mourir. Mais tous ressusciteront aussi. Bon, évidemment, si vous êtes de ceux qui allaient être enlevés, alors à ce moment-là, oui, c'est vrai, vous ne mourrez pas. Mais à part ce grand miracle extraordinaire que nous attendons tous, eh bien, il faudra que vous mouriez un jour ou l'autre, comme tous ceux qui nous ont précédés. Parce que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons. Car Jésus a été les prémices de la résurrection. C'est ce qui nous est dit dans les Saintes Écritures. Et je suis absolument certain de la résurrection. Absolument. Et l'apôtre Paul l'était aussi. Et voilà pourquoi il a écrit ce merveilleux chapitre 15 dans 1 Corinthiens au sujet de la résurrection. Il explique le pourquoi. Il croit que Christ est ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux les hommes. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous disons, ça c'est vain s'il n'est pas ressuscité. Et la voie de la résurrection nous a été ouverte par le sang du Fils de Dieu. Ça n'est pas rien. C'est un sang précieux, un sang divin qui a été versé pour nous, et qui est le prix qui a été payé pour que nous puissions ressusciter. Quand la résurrection viendra, nous nous lèverons revêtus d'un corps immortel. Et les persécutions, la souffrance, le chagrin, la douleur, la mort, liées à notre condition actuelle, tout ça, ça sera éliminé à jamais. Sans l'évangile de Jésus-Christ, la séparation par la mort est le sujet le plus sombre qu'il soit possible de contempler. Mais, dès l'instant où nous recevons l'évangile, dès que nous apprenons qu'il y a une résurrection, alors la tristesse, la douleur et la souffrance occasionnées par la mort nous sont enlevées, du moins en partie. Évidemment, c'est normal de pleurer la disparition d'un être cher, mais nous avons de l'espoir, nous avons une espérance, nous ne sommes pas comme ceux qui périssent, qui ne connaissent pas l'évangile. Je dis cela aujourd'hui, en 2016. Mais en 1968, au mois de juin, quand je me suis converti, quand j'ai découvert l'évangile, j'ai été comme assommé par la découverte de Marc chapitre 16 et verset 15. Je vous le lis, Marc chapitre 15, Marc chapitre 16 verset 15. Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mon papa venait de mourir et il n'était pas croyant. Alors, j'ai été choqué. Ce verset dit que les incroyants sont perdus. Mon père n'était pas croyant parce que il avait été choqué par un pasteur indigne alors qu'il était très jeune. Et ma mère et moi, en 68, au mois de juin, nous nous convertissons et nous découvrons ce verset. Mais alors, ma mère me dit, mais alors, papa, il est où ? Je ne savais pas quoi répondre. J'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais pas très sage, je manquais de sagesse et de finesse pour pouvoir expliquer les choses, mais puis en fait, je ne savais rien. Je savais que Jésus avait dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair, ceux qui ne croient pas et qui n'ont pas été immergés, baptisés, seront sauvés. Et les autres, ceux qui croient et qui sont immergés seront sauvés, mais les autres seront condamnés. C'est ce qu'on a lu. Je ne voulais pas renier les paroles de Jésus. Je ne voulais pas commencer à mettre en doute la Bible. Alors, la mort dans l'âme, j'ai dit à ma mère, d'après Marc 16, 15, ben, papa est en enfer. Imaginez la peine, le chagrin, la révolte aussi. J'avais 18 ans, et cette prise de conscience a terni la joie de mon salut. Cette prise de conscience a terni la joie de ma conversion. J'avais vu des miracles, j'avais été transporté de joie en assistant à toutes ces réunions de Raphaël, c'était magnifique. Puis voilà que je tombe sur ce verset. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. À partir de ce moment-là, et cela jusqu'en juin 69, c'est-à-dire une année, pendant une année, c'était difficile. Je croyais que Jésus était mon sauveur, mais ma joie était ternie par la pensée que, bibliquement, mon papa était en train de souffrir en enfer, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Alors, pour m'égayer un peu, pour oublier tout ça, j'ai recommencé à aller en boîte. Vous voyez, j'avais pas la force, je pouvais pas résister, je savais pas où trouver de la joie. Dans l'église, soyons sérieux. Petit à petit, je m'éloignais du Seigneur et bien sûr, j'aimais toujours Jésus, mais il y avait cette horreur, mon papa qui était en enfer. Et puis pas que lui. Combien de milliers de personnes avec lui? Alors ce Dieu d'amour. Les mois ont passé, et voilà que Raphaël est revenu à Lausanne. Il a mis des affiches, et je suis allé le voir à la réunion. C'était dans la même salle d'ailleurs, à la Maison du Peuple à Lausanne. Je suis allé le voir et en discutant, il a bien vu que je ne marchais pas avec Dieu. Je suis arrivé, j'étais tout débraillé, voilà, je sentais la cigarette, enfin bon. Les signes, n'est-ce pas, du jeune qui n'est pas vraiment converti. Et il a fini par me convaincre de me joindre à une église. Alors je l'ai fait, je l'ai fait. Il m'a dit, tu as besoin d'un enseignement, je t'avais dit d'aller à l'église, t'as pas été, il faut aller à l'église. Bon, j'y suis allé. Et puis j'ai attendu de cerner un peu la personnalité du pasteur, un charmant monsieur, très calme, très posé, très bien. Et un jour, avec beaucoup de précaution, j'ai posé la question, sans préciser bien sûr que je parlais de mon papa, mais j'ai posé la question au sujet des gens qui décèdent et qui ne sont pas croyants. Il m'a répondu que Dieu seul sait, que ce n'est pas à nous de juger, mais que souvent il y a des gens qui se mettent en ordre sans qu'on le sache au dernier moment, Dieu écoute même nos soupirs, il ne faut pas désespérer, mais que Marc 16, 15 ne peut pas être contesté. Ni d'ailleurs, Hébreux 9, 27, il est dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, voilà. Donc, seuls ceux qui auront cru et qui auront été baptisés seront sauvés. Voilà, affaire classée. Je demandais encore à un autre, puis à un autre. Enfin bon, je voulais pas avoir l'air obsédé par ça, donc je me débrouillais pour que ça soit un peu espacé. Mais c'était une souffrance, frères et sœurs. Sans l'évangile rétabli par Jésus-Christ en cette fin des temps des nations, la séparation par la mort est le sujet le plus sombre qu'on puisse contempler. J'ai souvent été à des enterrements. J'ai prêché souvent. Lors d'enterrement. Je suis allé accompagner la famille avec le cercueil jusqu'au cimetière, voir une dépouille, quelle horreur ce mot, une dépouille mortelle mise en terre, c'est horrible. En Suisse, on avait une coutume, en plus, tous les gens doivent prendre une... Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, parce que depuis le temps que je vis en France... Alors on devait prendre un peu de terre dans la main et la jeter sur le couvercle du cercueil. Ça faisait un bruit épouvantable. Enfin bon. Sans l'évangile rétabli, tel qu'il était, jusqu'à ce que les religieux le corrompent, sans cet évangile rétabli, on est au bord d'un gouffre de ténèbres quand on est là, devant cette horreur qu'est la mort. La mort de quelqu'un qui ne croyait pas. Mais dès que nous obtenons l'évangile, ce que l'esprit de l'homme... Vous savez, Jésus dit, celui qui cherche, il trouve. Et quand on trouve, quand on rencontre l'évangile, dès que l'esprit de l'homme est éclairé, par l'inspiration du Tout-Puissant, alors nous pouvons nous exclamer « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» comme c'est écrit dans, je ne sais plus, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 15. Vous connaissez le texte. Et l'esprit de l'homme de foi a une base pour pouvoir se reposer. Telle est notre position dans la communauté. Nous savons, nous ne sommes plus des ignorants, nous ne sommes plus dans les ténèbres à ce propos. Dieu nous l'a révélé. Et nous comprenons la résurrection des morts. L'Évangile met l'immortalité véritablement en lumière. Je vais vous lire 2 Timothée, où est-ce qu'il se cache celui-là, voilà, 2 Timothée 1, 9 à 11. Il, c'est-à-dire Jésus, nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Alors, c'est nous ça. Il faut, bien sûr, ce texte n'annule pas Marc 16, 15. Il faut toujours croire être baptisé pour être sauvé, mais les morts, comme mon cher papa, entendent l'évangile prêché dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4, 6. Et après avoir été jugés quant à la chair et placés dans le mauvais côté du séjour des morts, ils peuvent vivre par l'Esprit selon Dieu, toujours d'après 1 Pierre 4, 6. C'est une vérité, c'est quelque chose d'authentique, c'est véritablement vrai, je le crois, de tout mon être. Si j'y crois, il ne nous reste plus qu'à pratiquer par amour, à leur place, ce que faisaient les premiers chrétiens et que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 29, ce grand chapitre au sujet de la résurrection, au sujet de, Jésus-Christ est ressuscité, s'il n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux, mais voici, il est ressuscité, etc., etc. Sinon, pourquoi, à quoi cela servirait-il de se rebaptiser pour les morts s'il ne ressuscite pas, etc. Ah. Jésus met les choses en lumière. Il met en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile pour lequel, comme dit l'apôtre Paul, j'ai été établi prédicateur. Et j'ai aussi été établi prédicateur de ce même évangile, de cette bonne nouvelle. J'ai perdu ma maman et j'ai prêché à l'enterrement et je n'ai pas pleuré. J'ai conduit ma chère maman en terre, mais je savais que son esprit avait déjà rejoint mon papa. Parce que mon papa était un homme bon et droit. Je suis certain que s'il avait eu l'occasion d'entendre l'évangile ici-bas, proprement prêché, il l'aurait reçu, parce que il aimait ce qui est vrai. Aussi, je suis absolument persuadé que dans le séjour des morts, il y a cru et il a reçu l'évangile qui lui a été annoncé, comme il est dit dans 1 Pierre 4, 6. Je voudrais vous faire une lecture maintenant. Vous savez que je lis le livre de Mormon, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Et je voudrais vous lire dans la section 137 de Doctrine et Alliance. Voilà ce que le Seigneur a révélé. C'est alors que me parvint la voix du Seigneur disant, tous ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile, qu'ils auraient reçu s'il leur avait été permis de demeurer, seront héritiers du royaume céleste de Dieu. En outre, tous ceux qui mourront dorénavant sans le connaître, qu'ils auraient reçu de tout leur cœur, seront héritiers de ce royaume. Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. Et je vis aussi que tous les enfants qui meurent avant de parvenir à l'âge de responsabilité sont sauvés dans le royaume céleste de Dieu. Pourquoi je sens que cette parole est vraie? À cause de ce que la Bible dit, à cause de ce que l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut, qui est annoncée aux vivants mais aussi aux morts, 1 Pierre 4, 6, à cause de cela, maintenant je suis tranquille, parce que je sais que Mon papa est sauvé, et non seulement lui, mais aussi des millions d'autres. Que Dieu n'est pas un Dieu méchant, incapable. Tous ces êtres humains qui sont nés quelque part un jour sur la terre, à l'autre bout du monde, pendant tous ces siècles, et qui n'ont jamais entendu prêcher l'Évangile, ils peuvent avoir cette chance de l'entendre dans le séjour des morts. Et puis alors, oui, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils sont jugés, mis dans le sein d'Abraham ou dans le séjour des morts du mauvais côté, comme le mauvais riche. Et puis ils attendent. Ils attendent quoi? Le jugement. Le grand jugement. Le jugement du trône blanc. Et c'est là que ça se décidera s'ils vont en enfer ou pas. Pour le moment, il n'y a personne en enfer. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Je parle avec mon cœur, là. Et ici-bas sur la terre, je me suis donc fait baptiser à la place de mon papa, conformément à la très sainte écriture de 1 Corinthiens 15, 29. Très sainte écriture rejetée par les très saints théologiens. Voilà. Mais n'empêche, que de souffrances retenus, cachés, dissimulés dans le cœur de combien de personnes, chaque fois qu'ils pensent à leurs très chers, à leurs bien-aimés qui sont morts sans connaître Christ. Peut-être votre maman est morte sans connaître Christ, peut-être une sœur, un ami, quelqu'un que vous connaissez. D'après Marc 16, il est perdu. Mais ça, c'est un texte, il faut prendre toute la Bible pour savoir la vérité. Pour moi, 1 Corinthiens 15, 29 me remplit de joie, parce que je sais que la résurrection est vraie et que grâce à Dieu, mon papa est sauvé. Et pas seulement lui, mais des milliers d'autres. Il y a une réalité éternelle et le monde finira par la découvrir. Une réalité éternelle dans la vie et aussi dans la mort. Pour le moment, le monde ne l'a pas découvert. Parce que les religieux retiennent injustement captive la vérité. Oh, ils sont très forts pour parler, mais où est leur cœur? Si tu ne crois pas, si tu n'es pas baptisé, tu es perdu. Marc 16, 15, bam. C'est horrible. Il y a une réalité éternelle dans la résurrection et dans le grand jugement futur. Le grand jugement n'a pas encore eu lieu. Il y a une réalité éternelle dans ce grand jugement, dans la façon dont Dieu traitera ce jour-là tous les hommes, selon les actes accomplis alors qu'ils étaient dans leur corps. Et puis ensuite un livre sera ouvert, le livre de vie, et quiconque aura son nom inscrit là sera sauvé. C'est ce qui est écrit dans ma Bible, dans la vôtre. Et quand un homme ou une femme qui a contracté une alliance avec le Seigneur, qui a reçu l'Évangile, qui a reçu ses ordonnances, et qui a été loyal et qui a été fidèle, quand un tel homme, une telle femme se couche et pense et réfléchit, il a une grande assurance paisible. Réjouissez-vous, disciples croyants et confiants, réjouissez-vous. Michou et moi, nous avons perdu notre fils Marc. Et quand c'est arrivé, c'était là une erreur médicale. C'est un médecin qui a commis une erreur. Et quand c'est arrivé, nous avons décidé, en pleurant, de ne pas demander pourquoi à Dieu. Et nous n'avons jamais demandé pourquoi. Parce que nous avons cette grande assurance que notre enfant était innocent. Il n'a jamais été dans la transgression. Et il a subi la mort conformément à la loi que Dieu a décrétée sur Adam et sur toute sa postérité et sur toute la nature. Voilà, tout ce qui naît doit mourir. à cause de ce fameux péché. Mais la nature entière soupire après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Mais quand l'esprit de mon fils, de notre fils Marc, a quitté son petit corps, il est entré dans le monde des esprits, et son corps sortira de la tombe le jour de la résurrection, j'en suis absolument persuadé. Et il nous sera remis à nous, ses parents, parce que je crois que la famille est éternelle. Je ne crois pas que Dieu fasse tant d'histoires au sujet de la famille sur cette terre, pour que, après la mort, ça soit fini. Et nous recevrons notre fils Marc dans l'organisation familiale du monde céleste, j'en suis persuadé. Et nous vivrons ensemble aussi longtemps que Dieu vivra, et c'est pour l'éternité. Cela, c'est une grande source de réconfort et de consolation. Voilà ce qu'apporte l'Évangile. Des réponses aux questions les plus importantes. Des questions qui peuvent nous troubler tellement si on manque de connaissances. Merci mon Dieu pour cette assurance que donne l'Évangile. Et je prie pour que ceux qui ne connaissent pas cette consolation la trouvent. Elle se trouve dans la Bible, bien sûr, aussi dans le livre de Mormon, c'est certain, là aussi, mais déjà contentez-vous de votre Bible, lisez-la et lisez-la bien, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup ne croient pas dans les promesses de Dieu. Moi et ma maison, nous y croyons, et nous sommes heureux. Alors, comme le disait un vieux prédicateur que j'ai connu et qui lui aussi est parti maintenant, il disait « Si vous êtes jaloux de mon bonheur, faites comme moi, décidez de croire dans l'Évangile. » Amen. Décidez de croire dans l'Évangile et arrêtez de chipoter avec les doctrines. Vous n'en finirez jamais avec les doctrines. Il y en a un qui vous dit ci, il y en a l'autre qui vous dit ça, tout le monde a l'air d'avoir raison. Laissez parler votre cœur. Est-ce que Dieu est méchant au point de laisser mourir et envoyer en enfer des gens comme ça, par pelletée entière, par fournée, comme disait l'autre? Non, Dieu n'est pas comme ça. Lisez votre Bible et lisez-la bien. Seigneur, je te prie vraiment que mes frères et sœurs qui ont écouté ce message aient pu toucher un peu de mon cœur. Pas simplement de ma doctrine, mais de mon cœur, afin de comprendre quelle est la profondeur de ton amour, de ta bonté, à leur égard et à l'égard de tous leurs ancêtres. Je te le demande, au nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir.